Devi lavarsi bene. Alors, de toute façon, vous avez dû voir qu'on vous a distribué dehors les parachutes à savoir. Je ne sais pas si vous les avez prises. Oui, je vois quelques-uns là. Non, 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 laissez-moi parler. La parachute en français, et je crois qu'il y en a dehors, vous la prendrez en sortant. Alors oui, vous avez une étude sur un verset que nous allons étudier, et je vais me borner à vous donner un complément d'étude sur ce verset. C'est-à-dire que j'aimerais bien que vous lisiez ce texte qui est préparé dehors. Je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas pris. Vous l'avez pris? Non, c'est pas ça. Je vous dis la parachute en français. Oui, la prochaine fois, il faudra les mettre là, comme je le mettais d'habitude. Non, n'oubliez pas de le prendre en fait. Oui, c'est ça, oui. Parce que je ne veux pas prendre trop de temps pour étudier le verset lui-même, puisqu'il est déjà étudié dans le texte écrit. Alors, je vous signale à ce propos que la semaine prochaine aura lieu ici la Haskara de Régine Lehmann, pour ceux qui l'ont connu. Même pour ceux qui n'ont pas connu, puisque chaque année, on fait la Haskara, la notre anniversaire. En fait, l'anniversaire lui-même, c'est le mardi, mais le lendemain, le mercredi. Et moi, je ne serai pas à Jérusalem, mais Shaul Oren fera le cours de Paracha, et ça sera suivi par la Haskara et un kiboud habituel de Haskara. venez tôt, parce qu'il risque d'y avoir du monde pour que vous ayez de la place. Les places vous reviennent à vous en priorité. Ne croisez pas les jambes pour étudier. Bien. Alors, Syrah.
6h, il y a Minra. Pour le Régine Lehmann. Le rendez-vous est à 6h pour Minra.
Ici?
Oui.
Ah bon, je ne sais pas.
Je sais pas. C'est ce qu'on a dit sur la feuille.
Et pourquoi ils ont mis 6h, Minra? Je comprends pas. Ils savent bien que les gens arrivent à 6h30. Bon. Alors, ceux qui veulent faire mincha, venez à 6h. Il va y avoir du brouhaha. Bon, c'est pas votre problème ni le mien. Allez, on revient au sujet. Alors, vous allez prendre le début de la paracha. Je vais vous dire donc rapidement une étude sur la première mitzvah. Ensuite, nous étudierons un autre passage. Alors, c'est le chapitre 21. Je vais traduire le verset, expliquer le sujet et indiquer le problème d'exégèse que nous allons étudier. Cette étude, par rapport à cette mitzvah, fait un peu suite à ce que nous avons étudié la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons étudié le sujet de la mort des enfants d'Aaron. Vous vous rappelez de cela? Je me proposais d'étudier, mais on n'a pas eu le temps. Aussi un sujet dans la paracha de Kedoshim sur la définition de ce que la Torah entend par la sainteté. On n'a pas eu le temps, bon, nous aurons l'occasion de retrouver cette étude. Alors, corollairement à ce que nous avons étudié à ce propos, la Torah institue l'interdiction pour les Kohanim de contracter une impureté. L'impureté se dit en hébreu « Touma ». Et suivez bien les termes, et si ce n'est pas clair en hébreu français, vous m'interrogez. Alors, par rapport à l'interdiction de la Touma, il y a une grande différence pour la Torah entre ceux qui sont Kohanim et ceux qui sont d'Israël, mais pas Kohanim. Dans tous les cas, l'impureté, c'est l'impureté. Et le principe de l'impureté, c'est tout ce qui ressort de la mort. Je vais donner la formule, la définition de ce qu'est l'impureté, Touma, c'est met avi avot à Touma. Met, le mort, le cadavre donc, c'est le principe des principes de tout principe d'impureté. Retenez bien cette définition. En français, vous avez deux mots, pur, impur, l'un étant le négatif de l'autre. En hébreu, il y a deux racines radicalement différentes. Pour dire pur, on dit tahor. Pour dire impur, on dit tamé. Ce sont deux catégories différentes. C'est-à-dire que l'impureté n'est pas considérée comme une privation de la pureté, mais l'impureté est une réalité de nature de la même manière que la pureté est une réalité de nature. Alors, bien entendu, nous sommes surtout habitués en français, à la culture propre aux Français, à l'idée, surtout dans la culture contemporaine, à l'idée biologique de la pureté ou de l'impureté. C'est vrai aussi, ça fait partie de la catégorie de la Touma en hébreu. Mais il y a plus que cela. Il y a, vous avez fermé la fenêtre là-bas ? Mais pourquoi il fait froid ou quoi ? C'est que j'étouffe complètement, je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis... vous arrivez à entendre ma voix bien qu'étouffée. Bon. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a quelque chose dans la salle ?
Vous voulez qu'on rouvre la fenêtre ?
Non, ça va si vous avez froid, mais je veux dire, est-ce qu'il y a une odeur dans la salle ou quelque chose ?
Oui.
Bon, ça risque de passer. Donc je disais que, d'autant plus que vous avez la racine du français pur, impur, c'est une racine grecque. Pur en grec, ça veut dire le feu. Donc vous voyez, l'idée qu'il y a dans pur ou impur, c'est pur, c'est ce qui est passé par le feu. Impur, c'est ce qui n'a pas encore été purifié par le feu. Vous comprenez l'idée en français ? Et il y a bien une indication, je ne sais pas, j'ai employé des mots simples, de débarrasser un objet ou une personne de tous les miasmes, de tous les microbes, de tous les risques d'impureté proprement physiques ou matériels ou biologiques, donc qui s'attachent au jeu de la vie. Et ceci est indéniablement vrai aussi pour la notion de Touma et de Tahara en hébreu. Mais dans la notion de Touma en hébreu s'ajoute une indication d'ordre plus psychique, je dirais même presque psychosomatique. Il y a dans le concept d'impureté, il y a quelque chose de plus que simplement l'impureté physique. Et d'ailleurs, c'est le cas dans notre problème de l'interdiction au Coranim de risquer de contacter une impureté. Et le modèle, le principe de l'impureté, encore une fois, c'est le contact avec un cadavre, et pas seulement le contact avec un cadavre, mais le simple fait de se trouver dans l'endroit où se trouve un cadavre. Et le fait de risquer le spectacle de la vue d'un cadavre est radicalement interdit au Kohen. Alors je voudrais bien préciser ce que j'étais en train de vous dire. La souillure de l'impureté est la même pour un Israël qui n'est pas Kohen ou pour un Kohen. Mais Israël qui a contacté une impureté a le devoir de se purifier, mais il n'a pas de faute. Tandis que le Kohen a une faute supplémentaire parce qu'il est interdit au Kohen de risquer de se... Ne m'approuvez pas comme ça me gêne. De risquer de se rendre impur. Donc, si vous voulez, le principe de la loi de définition de l'impureté comme impureté est la même pour tous. Mais pour les Kohanim, il y a quelque chose d'autre. Il y a une interdiction de risquer, surtout donc de prendre l'initiative, mais même de risquer de s'être mis en état d'impureté. Et nous allons, à travers le verset, essayer de comprendre rapidement pourquoi. Pourquoi le Kohen a une exhortation supplémentaire à ce sujet. C'est clair ? Bon. Effectivement, toute chose impure, retenez le principe, si vous voulez, on peut prendre des exemples, mais je crois que c'est suffisamment clair, toute chose dite impure dérive de cette impureté du cadavre. Il y a dans notre monde ce risque de la mort. Et puisque le risque, le fait de la mort, et par conséquent, dans notre monde, il y a impureté. La nature comme telle n'est pas considérée comme impure. Mais c'est le fonctionnement de la vie dans la nature qui sécrète l'impureté. L'impureté, c'est le déchet du geste de la vie, si j'ose dire. Et si vous voulez, je m'excuse de la grossièreté des termes, mais enfin, premier niveau, il s'agit des nourritures dégradées, pourries, des excréments, et donc du cadavre. Ça va dans le même sens. Tout ce qui est de cet ordre-là est tamé. Le grand principe dans les catégories bibliques, hébraïques, de l'hébreu biblique, c'est que est dit pur tout ce qui va dans le sens de la vie, et dit impur tout ce qui va dans le sens de la mort. Mais les mots ayant leur sens simple. C'est la vie comme telle est pure, mais elle sécrète l'impureté. Parce que le fonctionnement de la vie, inévitablement, mène à la mort. On pourrait disserter en culture générale longtemps sur cette donnée, mais je pense qu'elle est suffisamment claire. Et alors, ça se rattache à un problème extrêmement important qu'on esquive en général. Je vais le prendre par un biais d'un midrash, puisque nous approchons de Shavuot. Rappelez ce que le midrash enseigne à propos de Shavuot lorsque Moïse est monté au ciel demander la Torah, aller recevoir la Torah. Les anges se sont opposés à ce que Dieu donne la Torah à Moïse. Il y a différentes dimensions dans l'enseignement de ce midrash, mais il y a quelque chose d'important qu'il faut mettre en évidence par rapport à notre sujet. C'est le fait que, a priori, en vérité, théoriquement, la Torah n'a rien à faire dans notre monde, parce que la Torah, c'est la loi de sainteté. Or, dans notre monde, il y a l'impureté parce qu'il y a la mort, et que la mort et la sainteté, c'est deux contraires. C'est tout à fait des sacrés. Je pense qu'il est suffisamment clair. Il y a une espèce d'indication de la contestation des goïms et du Satan dans le Midrash, comment vous prétendez vous conduire d'après la Torah. Mais il est impossible de vivre d'après la Torah, puisque la Torah, c'est la Torah de sainteté, or il y a la mort dans le monde. Comment est formulée cette contestation? C'est à propos précisément des prescriptions de la Torah pour purifier l'impureté. À propos de la vache rousse, la paradoua, il y a une contestation que le Midrash mais dans la bouche à la fois des Umot Ha'olam et du Satan. Je n'ai pas dit que c'est la même chose, les Umot Ha'olam et le Satan. Mais ils ont la même contestation en Israël. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie des cendres de la vache rousse qui vont magiquement, entre guillemets, rendre pur ce qui est impur? Quel est le problème qui est visé? C'est que pour vivre selon la Torah, il faut vivre en état de pureté, parce que seul celui qui est en état de pureté peut s'approcher de la sainteté. Mais voilà que ce n'est pas possible dans le monde, puisque dans le monde, il y a la mort. Il y a une contestation fondamentale sur la prétention d'Israël de vivre selon la Torah. Est-ce que c'est clair? Oui. Et la contestation du Satan est pure et simple. Ce n'est pas possible. Et la contestation des goïms, elle est insidieuse. Vous rusez, vous êtes hypocrite, vous faites semblant que... Vous dites que vous vivez d'après la loi de vie, mais vous mourrez comme tout le monde. Est-ce que c'est clair? Bon, là encore, on pourrait disserter dans un vocabulaire plus ou moins nuancé, mais c'est l'idée qui est importante. Et alors, effectivement, il faut savoir que la Torah n'est pas de notre monde. Quelle est l'expression qui l'indique? Torah? Minashamayim. Torah, Minashamayim. Il faut prendre les choses au sérieux. La Torah nous vient du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a comme secret là-derrière dans cette formule? Mais c'est ça que ça veut dire. Les secrets, on ne va pas étudier. Et là, nous, c'est comment elle nous est venue du ciel? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la Torah vient du ciel? Mais nous savons que la Torah vient du ciel. Elle n'est pas de la terre. La Torah n'est pas connaturelle à la vie sur terre. Et la Torah, c'est la Torah de sainteté. Et donc, les anges avaient raison de s'opposer. Ils ne comprennent pas. Tena hodcha bashamayim, dit le Midrash en citant un verset de Psaume. Les anges s'adressent à Dieu en disant: laisse ta gloire dans les cieux, mais place ta gloire dans les cieux. Et l'expression du Midrash est extraordinaire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Que quand Moïse est venu chercher la Torah, les anges ont dit: non, qu'est-ce que vient faire cet intrus chez nous? Alors, je vais vous donner la suite du Midrash, peut-être on l'étudiera à Shavuot. Mais vous ayez une idée générale de ce thème, et je reviens au point de cette contestation. Alors Dieu dit, quand Moïse se plaint vis-à-vis de Dieu, qu'on l'empêche de chercher la Torah, alors Dieu dit à Moïse, tu te rappelles? Oui, dis-le en hébreu. Dis-le en hébreu. C'est lui qui parle. Achos bi kisakavod. C'est ça que j'attendais. Laisse-le parler. Non. Tu vois, il faut toujours se rappeler des choses comme elles sont écrites. Par cœur. Torah Sheva'al Peh. Elle doit être par cœur. Ve achzir lahem tshuva. Alors cette expression, donne-leur une réponse, ça signifie aussi par l'heure de la tshuva. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que les anges sont parfaits. Ils n'ont aucune idée de cette prétention de l'homme Moïse venant chercher la Torah. Mais tu es faillible. Et la Torah, c'est pour les anges. J'ai l'habitude de dire en français, c'est pas une blague, qu'il faut être ange pour être de la Torah. En deux mots, être ange, parce que c'est étrange. Mais on est tellement familier au fait que la Torah, ça va de soi, est entre nos mains, on ne se rend pas compte du problème. Normalement, pour vivre sur la Torah, il faudrait vivre dans un monde où il n'y a pas la mort. C'est clair ? Bon, alors je ne rentre pas dans le détail de la discussion de Moïse avec les anges. Ça me prendrait trop de temps et c'est dommage, mais pour ceux qui connaissent le Midrash, vous indexez ça, ce qu'on va apprendre. Ça veut dire que Dieu dit à Moïse, eh bien, réponds-leur dans l'essentiel. Bien sûr que nous pouvons contracter l'impureté, nous pouvons faire des fautes, mais nous sommes capables de tchoua, ce dont un ange n'est pas capable parce qu'il n'est pas capable de fautes. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Et comment ça nous est indiqué dans... Je cherche un mot, il n'y a pas en français, mais... dans l'imagerie biblique, c'est que les anges nous sont décrits comme ayant les pieds droits. Regel Yeshara. Ils n'ont pas les pieds articulés. Ils n'ont pas les pieds articulés, ça veut dire qu'ils ne peuvent suivre que la route qui leur est tracée, sans s'écarter ni à droite ni à gauche. Ils ne sont pas peccables, capables de faute, donnés à la faute. Et alors, ils ne sont pas dans la dialectique faute-repentir. Hein, c'est clair ? Alors vous retiendrez cette expression. Pourquoi Dieu a dit « Tiens-toi au trône de ma gloire, à Chos Bekisseachavot et Verzir Laem Tshuva » Parce que nous avons un grand principe concernant le repentir. Même si une faute est arrivée jusqu'à atteindre les pieds du trône de la gloire, la Tshuva peut rédimer. Rédimer, c'est l'heure de rédemption, comme on peut dire en français. Peut...
Rédemption ?
Oui, non, mais un autre mot, pour ceux qui ne comprennent pas rédimer, c'est pas expier, mais peut effacer. Effacer, racheter, très bien. La force de la Tshuva est telle qu'elle va jusqu'au trône de la gloire. C'est-à-dire, même si on a fait une faute qui porterait atteinte à la gloire de Dieu, si la Tshuva est sincère, elle est efficace. Si la Tshuva est sincère. Et vous savez, quelle est la règle, le critère qu'une Tshuva est sincère? Quel est le critère qu'une Tshuva est sincère?
D'être placé dans les mêmes conditions et de ne pas refaire.
C'est vrai aussi, mais ce n'est pas suffisant. Plus fort, je n'entends pas. Là?
L'aveu.
Non, l'aveu, c'est dans le comportement de Tshuva, il n'y a Tshuva que si on avoue ce qu'on a fait. Si on avoue ce qu'on a fait. Mais mon. Repentir. Le remords, c'est le signe qu'il n'y a pas à repentir. Faites attention. Le remords, c'est la maladie qu'il faut guérir. Et c'est le repentir qui guérit la. Quand on a le remords, ça veut dire qu'on regrette les conséquences de la faute, pas la faute. Le repentir, c'est qu'on se repent de la faute. Est-ce que c'est clair la différence, hein? Je vous éclairer ça pour vous montrer jusqu'où ça va. C'est interdit, d'après le Shulchan Aruch, si nous étions normaux, ce serait valable, mais on n'est pas à ce niveau de normalité. C'est interdit, d'après le Shulchan Aruch, de se repentir pour une faute, sur une faute, comment on dit, pour une faute, que l'on a faite avant le jour Kippour dernier. Parce que si on se repent pour une faute qu'on a faite avant le jour de Kippour, ça veut dire que le jour de Kippour, on ne s'est pas repenti. C'est clair ? Vous avez compris le problème ? Bon. Alors, ce n'est pas valable pour nous, parce qu'on n'est pas capable de ça. C'est-à-dire, si vous arrivez de vous rappeler d'une faute faite avant le jour de Kippour passé, repentez-vous quand même. Non, le critère que j'attends est beaucoup plus sérieux. Le repentir est sincère quand c'est sûr que c'est la dernière fois qu'on se repent. Je ne sais pas si c'est clair. Ça veut dire quelqu'un qui se repent, mais ce n'est pas sûr qu'il ne va pas recommencer. Hein? Ça va un peu dans ce que tu dis. Cet exercice de tshuva, c'était chez les chassidim allemands. Et c'est très difficile. Les autres rabbins ont interdit. Les maîtres des chassidim allemands demandaient à ceux qui se repentaient de se remettre dans la même situation pour savoir s'ils étaient capables de ne pas refaire la faute. En général, ils tombaient dans le piège. C'est très difficile, ce genre d'épreuve. Tu vois ? Et alors, en général, les rabbins interdisent. Si tu sais à quelle faute tu penses, tu sais aussi à quel point c'est dangereux. Et alors, le Talmud dit « Haomer, Echeta ve'ashu, Echeta ve'ashu, en maspikin be'yadol, asot shua. » C'est-à-dire celui qui dit « je vais fauter et me repentir, je vais fauter et me repentir, on ne l'aide pas à se repentir. Qu'est-ce que ça veut dire, on n'aide pas à se repentir? Ça veut dire que le repentir sincère, c'est très difficile, à cause de l'aveu. L'aveu est très difficile. En général, on est aidé. On est aidé, on dit ça, on est aidé par le jeu de la vie. On est aidé par Sirta d'Ishmaïa. On est aidé par les coups qu'on reçoit dans le jeu de la vie. Ça nous mène obligés de se repentir. Pour ne plus supporter précisément le mal du remords. Et la formule du Talmud, c'est une formule de répétition, parce que la répétition de la faute crée une habitude et le repentir devient de plus en plus difficile. C'est le problème de l'habitude. L'habitude se contracte par répétition de l'acte, et plus il y a répétition, et plus c'est difficile de rompre une habitude. Est-ce que c'est clair? Bon. Et alors la question qui se pose, c'est comment on sait si c'est la dernière fois qu'on se repent? Eh bien, là, je crois que j'en ai parlé une fois, il n'y a pas longtemps, plus en mémoire, je ne sais pas si c'est avec vous. Eh bien, un homme sincère sait si c'est la dernière fois qu'il se repent. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Ça n'existe pas de dire j'étais sincère quand j'ai décidé, mais j'ai failli une fois de plus. On sait très bien, quand on a pris la décision, si c'est vrai que c'est la dernière fois ou pas. Je veux dire quelque chose qui ressemble, parce que j'ai expérimenté ça dans un autre domaine. Vous savez que j'étais un grand fumeur, j'ai contracté ça pendant la guerre, et puis j'ai arrêté de fumer. Et bien, je dois vous dire que deux ou trois fois dans ma vie, j'ai essayé d'arrêter de fumer, et les deux ou trois fois, je savais que j'arrêterais pas. Mais le jour où j'ai vraiment arrêté, je savais que j'avais vraiment arrêté. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Et il paraît que c'est difficile. Je peux vous garantir que, tic-tac, ça s'arrête. Ce qui est difficile, c'est de le décider. Non ?
Je n'ai pas
ça. Ça, c'était Alger.
À
Oran, oui. À Alger, c'était Florfina. Tu m'as fait rappeler le pasteur. Bon, en tout cas, pour revenir au... Non, il y avait Camélia Sport.
Camélia, exactement.
Alors, je vais vous raconter une blague qu'on raconte chez les curés. Un jour, il y a un catholique qui a eu un dikaol, comme on dit, une dépression. Il s'est pendu, mais la corde a cassé. Alors, il est allé chez son curé demander une pénitence. Vous savez que c'est une pénitence? Alors, c'est ce que le curé lui a dit, mon fils, repends-toi. Alors donc, c'est ça, c'est la capacité de la tchouva. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, je reviens à l'essentiel, c'est que vraiment, la Torah n'est pas de notre monde. Et il faut bien le savoir, parce que sinon, il y aurait deux invraisemblances. D'abord, l'ensemble des goïms, qui vivent sans la Torah. Et ils vivent. Il ne faut pas croire qu'ils sont anormaux. Ils sont goy. C'est autre chose. C'est pas. Quand on nous raconte ces énormités, quelqu'un qui ne vit pas d'après la Torah ne peut pas vivre. Et le monde entier, comment il vit? Je ne sais pas si c'est clair. Et on les appelle les hommes du monde, si j'ose dire. Du monde. On les appelle en hébreu Umot Arolam, les nations du monde. On les appelle Mishperot à Adama, les familles de la terre. C'est eux les habitants de la terre. Et dans ce monde de la terre, eh bien, la Torah est étrangère. Elle a été révélée du ciel. Il faut prendre les choses au sérieux. Et la deuxième invraisemblance, c'est tous les juifs qui sont empêtrés par cette espèce d'orgueil inversé, de croire que, qu'est-ce que ça veut dire que la Torah est révélée? Ça veut dire que c'est la meilleure sagesse au monde. Que nous, les Juifs, nous sommes les plus intelligents du monde. C'est ça que ça veut dire révéler. C'est l'orgueil juif dans toute sa splendeur. Et ils sont en difficulté dans des problèmes insolubles. Okay. Ils veulent se conduire comme si la Torah, c'était un genre de vie terrestre, il faudrait dire terrien. Okay. Alors que nous sommes des célestes, d'une hachamaïm. Il faut prendre les choses au sérieux. Et c'est vrai que c'est une Torah étrange dans ce monde-ci. C'est une Torah qui ne peut fonctionner que s'il n'y a pas la mort. Alors voilà qu'il y a la mort. Alors ça veut dire, bien que nous sommes dans un monde où il y a pur et impur, bien et mal, vie et mort, Israël a le parti pris de vivre selon la Torah qui lui a été révélée du ciel. Je n'ai pas dit par les célestes. Bon, c'est clair. Et c'est en tout cas dans la Torah, quand Dieu s'adresse à Israël, il leur dit qui mina shamaim shamartem. Vous avez entendu du ciel. Tout le monde a la vérité, mais vous n'avez rien eu. Seulement, c'est depuis si longtemps que la mémoire terrestre fait oublier de quoi il s'agit réellement, mais c'est resté dans la mémoire de la tradition. C'est resté dans la mémoire de ceux qui savent étudier la tradition. Enfin, je me suis mal exprimé. Dans la mémoire de ceux qui ont reçu cette tradition de façon ininterrompue de par ceux qui ont assisté à l'événement. Est-ce que c'est clair ? Il faut être sérieux, sinon de quoi on parle ? Alors effectivement, très tranquillement, le Midrash dit il faut vous attendre à ce que et les Umotar là, mais le Satan vont vous contester. Et j'ai beaucoup exploré ce problème chez les théologiens chrétiens. Les théologiens chrétiens sont convaincus qu'être juif, ils appellent ça pharisien dans le sens jésuite, qu'être juif prétendant vivre d'après la Torah, c'est d'un orgueil infini, d'une hypocrisie totale. Et vous voyez, ils sont en dehors de l'histoire d'Israël. C'est-à-dire la Torah nous a été révélée en dépit de l'impossibilité de la pratiquer sur terre. Et quelle est la clause de déculpabilisation des fautes inévitables parce que nous sommes sur terre comme les autres? Les autres sont de la terre, mais nous sommes sur terre. Qui met Hashamaim al Haaretz, al Adama. Chaque fois qu'il s'agit d'Israël, c'est al Haaretz, al Adama. Est-ce que c'est clair, Suzanne? Je pensais à autre chose, mais je reviens au sujet. Il faut bien prendre conscience de cela. J'ai l'habitude de citer ce que disait Abraham lorsqu'il a rencontré les Hittites dans le pays de Canaan, dans la tractation où il a acheté le caveau de Marpella pour enterrer Sarah. Lorsqu'Abraham leur dit Guer vetosha vanochi imachem. Je suis étranger séjournant avec vous, parmi vous. D'après le Pshat, je me base sur Narmanit, le Ramban, la question n'est pas du tout difficile à comprendre. Il y avait la coutume en ce temps-là que les propriétaires du pays, d'un pays, étaient propriétaires aussi d'un caveau familial. Et puis il y avait une fosse commune pour les étrangers. Or, Abraham arrive avec l'identité d'un Hébreu revenu de l'exil. Alors il s'adresse aux Hittites qui occupaient le pays et leur dit « Ger vetoshav anochi imachem » Je suis à la fois étranger et séjournant avec vous. Étranger parce que je reviens de loin et donc je n'ai pas de caveau familial. Et en principe, vous allez enterrer mon mort dans la fosse commune. Là, ça marche pas là. Et puis, mais seulement je suis toshav. Je suis de ce pays. Je suis Hébreu. Et par conséquent, j'ai droit à un caveau familial. Alors vendez-moi un caveau familial. Mais pas n'importe lequel. Il va directement chez celui qui disposait du caveau familial et en même temps était le préposé à la fosse commune. C'était Ephron ben Zohar. Arrêtez de... Et je... Non, je sais que c'est inconscient, mais ça me gêne. Parce que ça m'oblige à penser à autre chose chaque fois. Et je vous étudiais brièvement le nom de ce Ephron ben Zohar, le Hittite, chez qui Abraham va pour réclamer ce caveau-là. C'est-à-dire, de la Mehala Samarpela, via Sade, et la Mehala et le champ. La Mehala, c'est le caveau familial, et le champ qui entourait, c'était la fosse commune. Et le Midrash va nous dire tout de suite, dans cette Mehala, était enterré Adam et Chava. Et c'est là que seront enterrés Abraham et Sarah, Isaac et Rivka, et Yaakov et Léa. C'est pourquoi ça s'appelle Kiryat Arba. C'est une des raisons. Kiryat Arba, les quatre couples. Et alors, qui c'est ce Ephron ben Zohar? Regardez bien son nom, Ephron. Ephron, c'est le nom du gardien du cimetière du monde. Afar, c'est la poussière. Quand Dieu a dit au premier homme, tu viens de la poussière et tu reviendras de la poussière. Oui, Ephron, c'est le mot de Afar avec la désinence du superlatif. il faudrait dire le poussiéreux par excellence, le fossoyeur en chef. Alors, ça, c'est le pshat de ce qu'Abraham dit au Hittite. Vous suivez la cohérence. Il dit « Ger betoshav anochi imachem ». Judas Lévi, dans un de ses poèmes, a donné à cette expression « Ger betoshav anochi imachem » un sens que je vais utiliser pour notre problème. Pour notre problème, il dit « Ki ger toshav ani algav adama veulam » Bebitnahi Nahavati. Voilà ce que dit Judas Lévi. Comme un étranger séjournant, je suis sur la surface de la terre, bien que je sache que c'est en elle que j'ai mon héritage. Il parle de la terre. Il parle, n'est pas une pastille. Le 14 juillet, c'est la prise de la pastille. Au soir d'une pastille. Donc, alors, vous voyez quel est le sens. L'homme, dit Judas Lévi, en se basant sur cette expression d'Abraham, est que ger toshav algav adama. C'est clair en hébreu et en français. Quel? Voilà, c'est ça qu'il faut surtout retenir pour comprendre notre problème, et après vous oubliez. Parce que nous sommes terriens dans les apparences, mais nous sommes, en tant qu'Israël, minashamayim, comme la Torah est minashamayim. Et vous oubliez. Ça y est, c'est clair? Voilà la raison, ce qui fait que cela nous donne la tranquillité tranquille de vivre selon la Torah, c'est que nous savons que nous sommes concernés par cette Torah. Mais ça ne veut pas dire que cette Torah concerne la vie des hommes de la terre. Sinon, elle aurait été donnée à Adam, à tous les hommes. Ce qui a été donné à tous les hommes, c'est les sept lois de Noé. La Torah est donnée à Israël. Et c'est pas pour rien que le texte de la Torah l'a défini comme étant Min HaShamayim. Il faut prendre les choses au sérieux. J'insiste parce que je me rends compte de l'habitude qu'il faut, de l'habitude de penser qu'il faut bousculer pour que vous retrouviez cette notion. Et j'ajoute une dernière précision. Vous avez sûrement entendu enseigner un texte du Talmud d'une discussion entre les rabbins, et lorsque il fallait trancher, finalement, on n'arrivait pas à trancher par l'argumentation habituelle, et un des rabbins fait appel à Bat Kol, à la voix du ciel, pour trancher. Et la voix du ciel a tranché à Bat Kol en disant c'est comme cette opinion-là. Alors l'autre a répondu à la voix du ciel, la Torah n'est plus dans le ciel. Elle n'est pas dans le ciel. Mais ce n'est pas contradictoire. Elle n'est pas dans le ciel maintenant qu'elle est sur la terre, mais elle vient du ciel. Vous avez compris là? Ne vous trompez pas, il y a un piège. Mais elle est mina shamaim. Voilà, c'est clair? Elle se trouve dans le Beit HaMidrash, mais elle vient du Beit HaMidrash d'en haut. Et d'ailleurs, je vous dis, ça va très loin chez les rabbins. Quand les rabbins étudient dans le Beit HaMidrash, ils savent que dans le Beit HaMidrash d'en haut, on attend de savoir comment ils décident en bas, pour savoir comment on décide en haut. Mais pas idée à quel point c'est sérieux, ces choses-là. Alors, ceci dit, je continue. Voilà, donc on a un problème. Le Kohen doit se garder de la mort, mais la mort est là. Alors, d'où notre misère. Je vais lire rapidement le verset. Ça va? C'est clair, tout ce qu'on a vu là? Il n'y a pas de questions? Bon, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, je ne vous ai pas demandé si vous avez une question sur la paracha. Hein. Donc, alors on dit, Vayomer Hashem et Moshe, et Dieu dit à Moïse, Emor et la Kohanim, dit au Kohanim, Bene Aaron, les fils de Aaron, vers Martaléem, et tu leur diras, les Nefesh Loïtama Beramav, qui ne doivent pas se rendre impurs à un cadavre lorsque le cadavre est au sein de leur peuple. Le Beramav correspond au Nefesh. Les Nefesh Beramav Loïtama. Je commence par expliquer ce point. Ça veut dire, s'il y a un cadavre, mais que n'importe qui du peuple peut s'occuper de ce cadavre, le Kohen n'a pas à s'en occuper. Mais s'il y a un cadavre, mais qu'il n'est pas Berama, il n'y a personne pour s'en occuper, même si le Kohen Gadol passe par là, ça s'appelle Met Mitzvah, le Kohen Gadol doit s'occuper de l'ensevelir. C'est clair ? Vous comprenez que la précision qu'apporte Nefesh Berama, Loïtama. Et tout de suite, je lis le deuxième verset, on y reviendra tout à l'heure, Kim, mais si ce n'est l'Ifero Akaroelav, à sa chair propre, ici il y a une correspondance des mots, mais c'est une coïncidence. Chez Héro, c'est la chair, comme on dit, la chair de ma chair, les proches. Leïmo Labiv, sa mère, son père, Velino Bito Lachiv, son fils, sa fille et son frère. Il y a d'ailleurs la gradation, la gravité du deuil dans l'ordre de la mère, le père, le fils, la fille, le frère. Bon. Alors voilà. Et ce que vous allez lire dans cette paracha en français, c'est la raison pour laquelle c'est interdit à un Kohen de s'exposer à l'impureté du cadavre, mais que si c'est un proche parent, non seulement il peut, mais il doit. Je vous dis là la réponse très rapidement, mais vous y direz sur ce texte, c'est que ce blasphème que représente la rencontre avec le cadavre pour un Kohen, l'impact que ça a sur son âme, ne joue pas quand c'est un proche. Parce qu'il y a une familiarité du visage qui évacue l'impiété de ce blasphème que le Kohen voué à la vie regarde la mort. C'est contraire à son âme. Je ne sais pas si c'est clair ce sujet-là. C'est-à-dire un prêtre ne doit pas être relié à la mort parce qu'il est le prêtre de la religion de la vie. Vous voyez à quel point c'est différent de toutes les autres religions. Dans toutes les autres religions, c'est par définition le prêtre qui s'occupe des morts. Il s'occupe des vivants aussi, mais parce que les vivants vont mourir. Si les vivants ne vont pas mourir, ils ne s'en occuperaient pas. Et est-ce que c'est clair ce que je dis? D'ailleurs, vous remarquez que quand les rabbins commencent à ressembler à des curés, ils ne parlent plus que de la mort. Vous avez remarqué ça? J'étais toujours épouvanté quand il m'arrive d'écouter ces sermons de rabbins pieux. Ils ont une seule chose en tête. Persuader les gens qui vont mourir. Et alors il faut bien se tenir. Ah, ils ne sont pas faits pour ça. Torah Trahim ne compte pas la mort. Alors, c'est clair ce que je dis là. Et alors en fait, il faut bien qu'on s'occupe des morts. Il y a une confrérie particulière d'hommes exceptionnels qu'on appelle les Havre en araméen, les Haverim. Les membres de la Hevra Kadisha, ceux qui s'occupent de tout ce qui concerne l'agonie, la mort, l'enterrement, tout ça, sont déjà exceptionnels. Quand on les connaît, qu'on est avec eux, on sait qu'ils sont dans un autre monde que le nôtre. Il y a un calme, une sérénité, ça rassure de les voir fonctionner. Tandis que tout un chacun dans la communauté, qui n'est pas Haver, n'a aucune idée de la manière dont ils peuvent traverser cette expérience qui est interdite au Kohen. Le Kohen ne doit pas être préoccupé par cela. Vous voyez, je joue une petite parenthèse, mais j'en ai parlé aussi dans ce texte. Il s'agit du Kohen. On fait l'erreur souvent de croire que c'est le rabbin qui remplace le Kohen. C'est pas le rabbin qui remplace le Kohen. De toute façon, il s'agit que des Kohanim qui sont vraiment Kohanim, descendants de Kohen. Mais le rabbin n'est pas le prêtre comme le Kohen était dans le temps. Le rabbin, c'est le Dayan. Le rabbin, c'est celui qui enseigne la Torah et qui est juge au tribunal rabbinique. Il peut lui arriver d'être le Hazan, mais c'est le Hazan qui remplace le Kohen. C'est pourquoi celui qui prie pour la communauté, c'est lui qui est à la place du Kohen, pas le rabbin. Dans les communautés normales, traditionnelles, sont deux charges très différentes. La charge du rabbin et la charge du Hazan dans la synagogue, c'est pas la même chose. Est-ce que c'est clair ce... Et vraiment, la charge du Hazan appartient au Hazan et pas au rabbin. Bien sûr, le rabbin a tous les honneurs dans la synagogue, parce que c'est le rabbin, mais c'est le Hazan qui est le Hazan. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Alors, il peut arriver qu'un rabbin soit Hazan, mais ce n'est pas sa vocation. Et c'est pourquoi ce que le Shulchan Aruch réclame du Hazan, c'est une piété exemplaire et si ça se trouve, une belle voie. Mais avec le temps, ça s'est inversé. Et alors, maintenant, ce qu'on cherche, c'est un cantor, comme on dit. Vous savez ça. Regardez comment les mots ont changé. Chaler, Tibour, Chazal, Cantor. Okay. En français, le chantre de la synagogue. Okay. C'est complètement inversé. Je vais raconter une petite anecdote. J'étais ami dans mon enfance avec un grand Chazal. Vous avez connu, tu as connu Salomon Cohen?
Non.
Tu vois pas, non.
Moi, j'ai dû connaître.
Non, c'est
tout.
Derrière, c'est le coiffeur. Non, il était plus avec nous, mais bon, une voix extraordinaire. Et alors,
un
officiant. Bon, mais il n'est pas resté longtemps. Hein. Il a été généralement le Khazan à Lisbonne, chez les Portugais. Et alors, mais vraiment, une voix, il me racontait, quand il était jeune, il préférait aller chanter au cabaret qu'à la synagogue. Et sa mère lui faisait la vie jusqu'à ce que finalement, il a renoncé au cabaret pour aller à la synagogue. Et alors, il me dit, tu comprends, il y a deux sortes d'oiseaux. Les oiseaux qui chantent, ils ne sont pas cachers. Et les oiseaux qui ne chantent pas, ils sont cachers. Les oiseaux cachers, ils ne chantent pas. Alors, si vous faites la liste des oiseaux, vous verrez que les oiseaux qu'on peut manger, ils ne chantent pas. Moi, je chante, je suis un oiseau pas caché. Bon, en tout cas, pour revenir au sujet. Et c'est vrai, il y a beaucoup de grands Hassanim qui, dans leur jeunesse, ont hésité, l'opéra ou la rue de la Victoire. Lui aussi, ça lui est arrivé. Il a raconté ça, je savais pas. Mais il y a un très grand boulevardiste, comme on appelle ça par les journaux.
Non.
Boulevardier, oui. C'est Hoffmann. Il a commencé par être Hazan et ensuite il est passé au boulevard. Bon, allez, on revient au sujet. Alors, ce que je voudrais, c'est mettre en évidence une difficulté apparemment grammaticale, mais qui est très importante, qui va nous apprendre quelque chose d'important à ce sujet. Regardez bien, je relis le texte. Nous avons déjà étudié ça une fois, je me rappelle. Bayom Erachem El Moshe. Maintenant, vous pouvez suivre en hébreu. Emor El Kohanim Ben Aaron, Vermarta Lehem. Les nefesh loitama ve'amav. Loitama est au singulier. Alors, je ne peux pas traduire comme j'ai traduit tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai traduit « parle au Kohanim et dis-leur qu'ils ne se rendent pas impurs » au pluriel, « qu'ils ne se rendent pas impurs au contact d'un cadavre. » Mais il y a écrit « loitama » au singulier. Alors, voilà comment je vous propose de lire. Suivez bien. « Vayomer Hashem el Moshe emor el Kohanim ben Aaron » Premièrement, il y a une difficulté. Nous savons que les Kohanim sont ben Aaron. Pourquoi il faut cette précision ?« Au Kohanim, fils d'Aaron ». La Gemara tout de suite va expliquer. On en a besoin de cette précision, qu'il soit bon pour le service ou pas. Ça veut dire « halalim ben mashmar » Un Kohen qui a un défaut, qui lui interdit d'être pris au service du Temple, reste quand même fils de Aaron. Et par conséquent, même ces Kohanim qui ne sont pas bons pour le service du Temple ont cette interdiction. Comme vous allez voir d'où ça vient tout à l'heure, d'après même le texte. Vermat Alehem, pourquoi cette répétition, dis-leur et tu leur diras. Alors le Sifre, le Midrash Halakha là-dessus, explique, il faut exhorter les adultes, ceux qui sont déjà soumis au mitzvot, après l'avoir mitzvah, d'avoir...